Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Herner.
Bonjour Mathieu Flonneau.
Bonjour Guillaume Herner.
Vous êtes historien des mobilités et de l'automobilisme et vous avez notamment publié L'auto-refoulement et ses limites aux éditions Descartes. Est-il encore possible, selon vous, de défendre la voiture en ville ?
Alors je suis habitué au raccourci et je ne reviens pas sur votre présentation. Je suis un défenseur de l'automobile, oui, à certains égards, acharné, en effet. Peut-être pas en ville, hein. De ce point de vue-là, j'apporterai vraiment une nuance majeure. C'est-à-dire qu'il y a des zones de pertinence, des zones d'impertinence. Ce que je note, c'est que pour travailler le sujet depuis plus de 20 ans désormais, ce qui ne nous rajeunit pas, évidemment, je ne pense pas avoir un storytelling de circonstances à proposer. Je pense vraiment avoir une histoire qui est fondée sur l'appréhension d'une culture globale, d'une épaisseur de ces mobilités automobile, une épaisseur sociale, culturelle, politique, économique, que vous venez de souligner là dans le billet avant, c'est une industrie. Et c'est une industrie dans laquelle les firmes françaises, même mondialisées, excellent. Il faut le rappeler.
Il y a une critique qui monte sur la voiture. Alors la pollution, bon, ça c'est une évidence. Il y a une autre critique, c'est la place qu'elle occupe, cette voiture. Le fait que finalement, ça n'est pas rationnel d'occuper tant de place pour permettre la mobilité de si peu de personnes, puisque la voiture est occupée par une personne seule. Est-ce qu'il y a quelque chose à redire à cela, Mathieu Flonneau ?
Bien sûr, l'autosolisme est stigmatisé. Mais il faut replacer les choses véritablement dans le contexte de la culture du transport, de la culture de la mobilité. Et à l'horizon aussi, là, des assises de la mobilité, de la loi d'orientation sur les mobilités qui s'annonce. Au-delà de la voiture, au-delà de la voiture individuelle, c'est la route. C'est la culture routière qui est fondée sur un patrimoine existant, qui est résilient, c'est-à-dire qu'on peut l'améliorer. Mmh. On peut réfléchir à un partage de l'espace public. Et ceci, évidemment, participe de ce que l'on appelle la révolution automobile en cours, parce que naturellement, l'avenir dans certaines zones est à l'autopartage, l'avenir dans certaines zones est à une dimension collective de ce transport originellement individuel. Mais de façon trompeuse, parce que dès les débuts de l'automobilisme, il faut le rappeler, l'automobile s'est imposée dans tous les secteurs de la vie publique parce que elle était flexible, parce que des usages collectifs pouvaient en être faits. Et j'inclus dans la culture de l'automobiliste, vous avez bien fait de le noter, je ne suis pas un historien de l'automobile, je suis un historien des usages et de cette aspiration à la vie privée que l'automobile a, eh bien, pendant un temps satisfait. Car il faut bien s'en rendre compte aussi, et là il faut tomber des naïvetés parfois un peu idéologiques qui nous sont assénées de façon unilatérale, si l'automobile s'est imposée, c'est parce qu'elle apportait beaucoup. C'est parce qu'elle apportait beaucoup de solutions. C'est parce qu'elle apportait, eh bien, une nouvelle lecture, précisément de cet espace public, plus libératrice. Et j'insiste bien sur ce mot, parce qu'on peut le contester, mais derrière l'automobile, il y a essentiellement une question de prolongement de l'individu.
Mais alors, Mathieu Flonneau, l'automobile, ça n'est pas un objet éthéré. Il y a également des choix qui ont été faits en France, notamment le choix du diesel. Ce choix, il apparaît éminemment contestable. Et aujourd'hui, c'est vraiment un sparadrap, puisque une majorité du parc est dieselisé, le diesel pollue. Comment faites-vous concrètement pour éviter que ces voitures qui, si elles circulent, polluent plus encore en ville ?
Bah, tout est question de transition, effectivement, et des transitions technologiques s'imposent, elles sont réclamées par l'opinion publique. Je dirais là encore une fois que la réduction du débat ad dieselum est assez triste et véritablement pervertit le débat parce qu'elle le politise de façon à mon avis totalement inutile. Elle ajoute une stigmatisation des conducteurs qui parfois sont prisonniers de ces choix qui étaient des choix industriels nationaux comme vous venez de le rappeler. Cette transition suppose du temps. Cette transition suppose que l'on sorte d'une pensée magique accusatoire. Cette transition suppose aussi que l'on prépare les choses, que l'on prépare les choses dans l'espace public, que l'on ménage eh bien, des moments de transition. Au laboratoire où je suis, au LABEX HNE, eh bien, on étudie cela et l'histoire est faite de profondeur de champ. Or, précisément, certaines solutions qui nous sont présentées, qui amènent à des fermetures parfois intempestives de voies et pas particulièrement désirées, on y reviendra peut-être, eh bien, ces solutions doivent intégrer la dimension du temps. Et la temporalité urbaine est longue.
Mais alors, j'ai pu lire qu'Anne Hidalgo allait au salon de l'automobile de Genève. Elle y va un peu à Canossa. C'est un peu comme si Nicolas Hulot avait accepté d'aller au salon de l'agriculture. Pensez-vous que là, on est atteint la limite de ce qu'un politique peut faire contre la voiture? Une posture qui est perçue comme trop radicale et qui peut-être n'est pas très payante politiquement.
Écoutez, on peut espérer qu'elle viendra aussi au Mondial de l'Automobile à Paris, qui reste le plus grand salon au monde, il faut le rappeler. Il y a là une dimension, effectivement, de pragmatisme réaliste et on ne peut que se réjouir, à mon avis, de cette mutation du regard sur un objet qui a été banni écologiquement.
Mutation, on n'allait pas trop vite non plus.
Non, mais mutation tout de même, parce que on reconnaît quand même à la route, et j'insiste bien, à l'infrastructure et pas qu'au mode de transport individuel, on reconnaît quand même à la route eh bien, des valeurs. La politique de la région, de ce point de vue-là, à mon avis, intègre une dimension précisément peut-être d'adaptation plus réaliste que eh bien quelques choix qui peuvent effectivement être justifiés, encore une fois, mais pour quelques populations d'hyper-centre-ville.
Lesquelles ? Parce que dans toutes les grandes villes au monde, on réfléchit donc à la voiture. Je lisais il y a quelques jours le New York Times qui évoquait un péage urbain à New York, parce que là aussi il y a évidemment des embouteillages. Qu'est-ce que vous reprocheriez par exemple à la politique qui a été menée par Anne Hidalgo à Paris ?
Écoutez, je ne suis pas là pour faire des reproches, c'est pas mon registre de discours.
Non, enfin,
des tribunaux se sont prononcés récemment et, quelques insuffisances de cette politique, quelques impréparations, je cite les textes des jugements, ont été relevés. Ce n'est pas à l'historien, naturellement, de s'inscrire dans ce registre de vocabulaire et de débat. Toujours est-il qu'il est évident qu'il y a une démonologisation de l'automobile qui est, à certains égards, problématique. Et il faut réfléchir à une culture plurielle de transport. Et les villes que vous venez de citer sont intéressantes, parce que bien souvent, l'instauration d'un péage urbain peut être aussi contre-productif sur la mixité sociale et sur la manière dont la ville fonctionne réellement. Et la ville de Paris a cette particularité, c'est d'être une ville-monde, mais d'être aussi une ville réellement habité par des citadins. Donc là, c'est une réflexion aussi, et là, c'est l'historien de Paris qui s'exprime, une réflexion aussi sur le fait de ne pas être aveugle sur les finalités de cette ville. Si l'on veut une ville où la touristification a gagné définitivement, où la muséification est profondément en cours, eh bien, je pense que là, le chemin est malheureusement celui qui est emprunté actuellement.
Le fait d'abandonner le moteur à explosion pour un moteur électrique, si c'est possible, pour une partie du parc, pour la totalité du parc, est-ce que ça va changer les modes de mobilité, comme vous dites, Mathieu Faudon?
Déjà, il est irréaliste de le penser pour la totalité du parc. L'électricité, alors la formule est appliquée à l'automobile thermique, mais du puits à la roue, l'électricité consomme beaucoup. Il y a cette dimension magique, là encore, de la solution qui doit être relativisée. Il y a beaucoup d'illusions dans le champ des transports. C'est un concours l'épine permanent. On va inventer des choses. Récemment, on a parlé du Sea Bubbles. Bon, le Sea Bubbles, c'est quand même un moyen de transport.
Le Sea Bubble, ce sont des bateaux qui, par exemple, pourraient circuler sur le Rhône, sur la Seine, et transporter...
Voilà, mais enfin, comparer les
débits... Mais ça va marcher à Genève, hein ?
Oui, oui, mais attendez, on parle d'une ville suisse, on parle d'une ville où l'aménagement peut être aménagé en ce sens, mais on ne parle pas d'un mode de transport massif. On n'est pas dans les mêmes échelles de la culture du transport. Donc là, il faut véritablement se départir d'un discours stigmatisant immédiat vis-à-vis d'une solution qui pouvait fonctionner, et adopter une position sans doute plus réaliste.
Merci beaucoup Mathieu Flonneau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'auto-refoulement et ses limites chez Descartes et compagnie, 7h25 sur France Culture.